What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I answered, and don't call me sir.
There's no crying in baseball!
Forever.
Man, the meatloaf!
It's not a tumor.
Price is wrong, bitch.
Hey, the Schwartz, baby!
They're here. They hurt.
Spew into this.
Yeah, baby, yeah!
I'm the dude. What are you looking at, butthead?
It went down on the channel phone.
I get old, they stay the same age.
Welcome to Jurassic Park.
I am your father.
Eh bien, bien bonjour à vous, chers auditeurs de RDOA, tout à fait. Bonsoir, oui, vous êtes en plein après-midi, mais c'est pas grave.
Donc, l'éclipse.
Oui, c'est ça, l'éclipse solaire à laquelle notre monde va tomber dans un trou noir, dans une faille de suspension temporelle. Donc, aujourd'hui...
Bonsoir,
c'est ça, ok, super. Non, parce que Hugo apprend le français désormais. Donc voilà, donc bienvenue à ATC, on va y arriver quand même au bout de 3 minutes. Hein. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc des films à scandales.
Donc
des films à scandales.
C'est pas ça.
Oui.
Laissez-moi vous introduire le sujet.
Oui, bon, je vous en prie.
Les films les plus polémiques du cinéma. Le cinéma, dès qu'il sort des genres traditionnels, pas folkloriques.
Oui.
De la comédie, des films romantiques ou des bons gros films d'action, fait souvent parler de lui. C'était pour les trois petits points de suspension. Qu'ils abordent des sujets religieux, violents, sexuels, et oui, les enfants, éloignez-vous pendant une heure, Gwen va parler fellation et cuny. Ou politique, certains réalisateurs sont d'ailleurs des rois en matière de polémique, on en avait parlé pendant la Scandinavie avec Lars von
Trier.
Yeah.
Alors évidemment, puisque c'est des films à scandale, alors la définition du scandale, c'est l'indignation, l'événement révoltant, le bruit, l'événement révoltant.
Ah.
Révoltant,
avec
The Revolt, et une affaire peu claire et qui met au grand au jour. Voilà.
C'est pitoyable.
Mais quoi, mais on va.
Toi
c'est...
aussi, t'as regardé.
Oui, Amour de Heineke. Oui, tout à fait. On en parlera justement de ce cher monsieur Heineke parce qu'il n'a pas fait que l'amour chez les vieux, mais aussi des films
on
un peu plus.
On dit pas vieux, on dit personnage.
Oui, personnage. Non, non, on dit vieux. Non. Mais bah justement, c'est le jour, c'est la journée, c'est l'heure où ATC va vous choquer.
Éloignez-vous du poste.
Voilà. Non.
Oreille chaste.
Oreille chaste.
Nous allons éloignez-vous. Alors, quel genre, monsieur non,
alors, quel genre? Eh bien, ma foi, on peut commencer. On va commencer dans le politique.
Oui, soyons fous.
Voilà,
soyons désinvoltes.
Comme dirait Monsieur Frappe qu'un coup.
N'ayant l'air de rien.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, évidemment, puisqu'évidemment, le cinéma aussi frappe là où ça fait mal, hein, quand même, quelque part. Oui, c'est ça, il frappe. J'en aime beaucoup quand ça frappe. C'est tous ces films comme, par exemple, le film Amen. Est-ce que tu connais le film Amen?
Oui.
Amen.
Oui, mais c'est plutôt religion, c'est pas vraiment politique.
Oui, enfin, il y a politique aussi, puisque c'est vrai que oui, c'est vrai
tu
que
es
c'est
déjà ambigu. À ce
oui,
que
je
vois.
Suis. Mais bah, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a parce que dans ce film, il y a quand même il y a trois grandes contradictions. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as quand même un type qui est au courant de l'Holocauste qui va faire appel à un jésuite, donc Monsieur Mathieu Kassovitz, pour l'introduire, si vous me permettez cette expression, au sein du Vatican. Mais en même temps, il y a aussi le cadre où, ma foi, on ne va pas pouvoir déranger l'Allemagne qui se fait bombarder et qui, ne va pas accepter qu'on puisse de nouveau dénigrer le Reich. En même temps, tu as le Vatican qui ne sait pas où se poser puisque, effectivement, il aide tous les âmes blessées de ce conflit et qu'il n'a pas envie. En plus, c'est des Juifs, donc forcément, il y a aussi un problème religieux.
Le rôle ambigu de...
Et aussi le rôle ambigu des
de
alliés.
La religion.
Et aussi le rôle aussi, puisqu'il y a aussi les alliés qui préfèrent, eux, aller taper sur le Reich pour en finir le plus tôt possible, notamment les Américains, puisqu'ils avaient quand même aussi la guerre dans le Pacifique, il faut le savoir. Et les Russes aussi, hein, qui voulaient, puisque c'était la course à Berlin. Donc c'est pour ça que ce film, il est quand même assez important, Amen de Costa Gavras, donc de ce côté-là, d'ambigu du Vatican. Donc c'est vrai que c'est on pourrait dire religieux, mais ça parle pas de, vraiment de religion en elle-même. C'est la position de l'Église, vraiment, je pense, au sein plus politique qu'au sens religieux. On ne tape pas sur Jésus, ni sur les 10 commandements, ni sur Dieu lui-même. C'est plus les êtres humains qui travaillent au Vatican que la religion. C'est pour ça que moi, je l'ai mis plus dans le côté politique. Parce qu'après, il y a aussi
c'était quand même une belle porte de sortie pour les nazis. Via l'Argentine et tout ça.
Ah oui, mais tout à fait, oui, ça aussi, il faut le savoir, que le Vatican a quand même bien aidé. Mais puisqu'il faut savoir que aussi...
L'Amérique du Sud, en général.
Oui, c'est ça, oui, mais même Mussolini, puisqu'il y avait les accords de Latran, tu sais, où Mussolini a consolidé sa place au niveau international grâce au Vatican. Donc aussi, au Vatican Motors.
Non, moi je dirais le premier film, hein, peut-être, c'est le fameux Dictateur, hein, de Mr. Charlie Chaplin.
Tout à fait, oui.
De 1940, le chef-d'œuvre de Chaplin, inspiré du régime nazi d'Hitler, hein, avait défrayé la chronique à l'époque. Troupe engagée politiquement pour les uns, pamphlet interventionniste alors que les États-Unis n'étaient pas encore officiellement en guerre pour les autres. Le long métrage dérange et a même été censuré en Espagne, Allemagne et Irlande. Oh. Donc ce bijou d'absurde a pourtant été le plus grand, je trouve, succès populaire de Mr. Chaplin.
Oui, il y a ça. Puis, puis ça me fait penser, tu sais, au film Iron Sky. Tu sais, les nazis qui sont sur la Lune, il y avait ce côté-là où ils revisitaient le film, justement, du dictateur. Ils en faisaient que quelques scènes bien consolidées pour dire que finalement le nazi n'était pas si méchant. Il y avait aussi, puisque en plus proche de nous, parce que là c'est vrai qu'on a un peu les Américains et puis le Vatican, il y avait aussi tout ce qui est concernant les films sur l'Algérie, puisqu'on a aussi le coup de sirocco d'Arcadie avec Roger Hanin, Marthe Villalonga et Patrick Bruel, donc aussi ce sort. L'ennemi intime en 2007 avec Benoît Magimel et Albert Dupontel, pardon. Et il y a aussi la bataille d'Alger, puisque la bataille d'Alger, c'est quand même une reconstitution sur la guerre d'Algérie. Oui, parce que en fait, donc la bataille d'Alger a fait quand même grand bruit à sa sortie, parce que ça explique vraiment toute cette bataille. Le FLN et consorts, et qui est assez précis quand même dans son déroulement. Et donc il y a quand même un groupe de combattants de l'Union française qui a exercé de fortes pressions, des menaces, des écrans de cinéma qui ont été lacérés, des bobines détruites, et ce film sera retiré jusqu'en 1981. Donc voilà, c'est ça aussi, il y a quand même ces films qui finalement font passer, parce que c'est là où quand même le cinéma français, je trouve, est peut-être un peu moins puissant, ou alors peut-être, je dirais pas plus sérieux, mais plus conservateur, c'est-à-dire que il y a eu quand même beaucoup de films qui ont été faits sur la guerre du Vietnam, mais très curieusement très peu sur la guerre d'Algérie.
Oui, c'en est fait quand même.
Oui, non, mais je dis pas, mais par rapport, je veux dire, il y a Platoon, il y a tout plein de Apocalypse Now, Good Morning connu, Vietnam, quoi. Et voilà. Oui, non, mais c'est ça. Mais et puis dans les séries aussi, hein, McDoom, il a été au Vietnam. On y fait beaucoup référence, ce qui est assez rarement le cas dans le cinéma français, quoi. Il y avait aussi Dupont-la-Joie.
Avec Jean Carmet.
Oui, Jean Carmet, oui.
Voilà. Ça se passe dans un camping, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, oui, effectivement, puisque le personnage de Jean Carmet qui rencontre une mignonne et il veut avoir des relations passionnelles avec elle. Elle refuse, il la viole et malencontreusement...
Comment ça, malencontreusement ?
C'est-à-dire qu'elle décède, hein, quand même. Il lui fait un peu le coup du lapin, donc elle a la nuque brisée, donc voilà.
Il y a un jeune beurre immigré qui se voit accusé à sa place.
Et lui, il va faire partie... D'autant plus que moi je trouve qu'il a été quand même bien fait ce film. C'est surtout qu'on a utilisé Jean Carmet, puisque quand même à l'époque il avait quand même tendance à faire les gentils, hein, comme dans La Soupe aux Choux ou Consorts. Donc c'est vrai que de ce côté là le mettre comme ça en être perfide, hein, dans ce film d'Yves Boisset. Et donc il faut savoir que quand même ça a été une critique du racisme ordinaire, puisque ce Dupont-la-Joie va... Et parce que quand même, les personnages du camping sont quand même une belle...
C'est dans les années 80.
Oh, oui, sont une belle...
Ils font pas une ratonnade aussi, non ?
Oui, tout à fait, oui. Et parce que le tournage et la sortie du film ont été quand même largement perturbés par des événements assez violents faits par le groupe d'extrême droite Charles Martel. Donc les comédiens maghrébins ont été pris à partie sur le plateau, physiquement et moralement. Et donc le film a été même déprogrammé dans certaines salles pour éviter tout rix. Donc voilà, je veux dire, c'est ce côté-là.
Rix.
Des rix. Oui, Astérisme. Ouais. Donc, c'était Astérisme et Péril. Donc, voilà, ouais. Moi, je trouve qu'il était très fort là-dessus. C'est vrai qu'on dépeint quand même une certaine idée de la France où, voilà, ben, on a vite fait de taper sur l'étranger et de se protéger soi. Il y avait aussi, bon, pour revenir à l'Algérie, parce que moi, j'aime bien bondir pour ne pas laisser l'auditeur s'endormir.
J'aime bien bondir seul.
Oui, j'aime bien bondir seul. Il y avait Le Petit Soldat, qui est un drame psychologique de Jean-Luc Godard, hein, qui a été réalisé en 63.
Merci.
Puisqu'en fait, c'est l'histoire d'un déserteur français qui travaille en Suisse pour un groupuscule terroriste d'extrême droite. Il rencontre une femme et il décide d'arrêter. Mais les types vont l'obliger à tuer un journaliste. Alors, ce film a été interdit plusieurs années par la censure puisque ça se trouvait dans les événements et que le ministère a trouvé qu'il était impensable qu'on puisse, puisqu'il y avait des histoires de torture aussi là-dessus et que forcément, on refusait de donner à la France une telle image de tortureur, puisqu'effectivement, on sait qu'en Algérie, il y a quand même eu beaucoup de tortures. Hein. Bon, oui, on n'était pas à accepter ça comme dans les 24 heures chrono où Jacques Bauer, lui, peut torturer désormais. Même dans les séries comme Lost, on a fait quand même torturer. Évidemment, sans parler évidemment de ce qui s'est passé dans l'armée américaine à Guantanamo. Donc voilà, mais c'est désormais un peu plus accepté, puisqu'on a... mais à l'époque, je sais
mais
que.
Non. Guantanamo, c'est comme une île de la tentation.
Justement, j'en reviendrai un peu plus tard. Il y avait aussi La Grande Bouffe. Hein. La Grande Bouffe,
oui.
Oui, qui est un superbe film.
La... 1973.
De Marco Ferreri avec Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Andrea Ferrol, Monique Chaumette et Florence Giorgi. Donc, c'est quatre amis qui décident, tout à fait cessant, de se suicider à la bouffe. Dans une maison, voilà, c'est ça, dans une maison de 1900 au 16e arrondissement de Paris. Donc voilà, ils décident de bouffer. Il y a beaucoup de scènes de scatologiques, des séquences quasi pornographiques. Et ça a fait d'ailleurs une mini-guerre à Cannes. Puisqu'il y a évidemment ceux qui se sont... Et d'ailleurs, ça se déroule souvent à Cannes, j'ai remarqué, oui. les conflits. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu évidemment ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, puisque, je veux dire, M. Ferreri a fait quand même une belle, je dirais pas apologie, mais une belle critique de la société de consommation.
Oui, non, mais de toute façon, je pense qu'on va citer la citation. Citer
oui.
la citation, j'aime
oui.
bien.
À la Cinecittà ?
Non, de Mr. Philippe Noiret, qui avait dit à l'époque, justement pour défendre son rôle, « Nous tendions un miroir aux gens et ils n'ont pas aimé se voir dedans. C'est révélateur d'une grande connerie. » Je pense que ça résume tout à fait les films basés sur les polémiques en général.
Oui, non, mais oui, mais bien sûr. Et puis, bon, je pense que. Puis, faut aussi.
Que ce soit après un miroir, pas au niveau spectateur, que ce soit au niveau des gouvernements et autres.
Ah oui, mais souvent, il y a pas mal.
Catholiques ou.
Oui, parce qu'après,
ou extrémistes.
Je sais qu'il y a pas mal de gouvernements qui se sont insurgés contre certains films, parce que ça leur a mis un peu le nez dans la merde et qu'ils aiment pas ça. Hein. Je veux dire, notamment, c'est ce qui concerne l'Algérie, c'est que cette période-là, le gouvernement français n'en est pas encore sorti. Alors. Par rapport à l'Américain, eux, ils ont laissé. Mais c'est vrai qu'ils n'ont que 200 ans d'histoire. Nous, on en a quand même bien plus. Et que finalement, on préfère faire des films du Moyen-Âge ou de Renaissance plutôt que de faire des films. Il est vrai que depuis, on en a fait des films sur la guerre d'Algérie. Mais bon, ça reste quand même limite. Hein. On n'aime pas bien ça quand même. Mais je pense que d'ici quelques années, quand tous ceux qui ont vécu ce conflit ont disparu, je pense qu'il y aura quelques films qui ressortiront et que ça aura moins d'impact au niveau du scandale. Quoi.
Il y avait sinon Mr. JFK aussi, d'Oliver Stone.
Oui, forcément. Hein, puisque...
Qui avait quand même suscité... De par sa théorie et
parce qu'évidemment
il avait déjà soulevé la avec Platoon.
Oui, mais je pense que c'est-à-dire que moi je trouve que c'est pas mal de réalisateurs américains aiment bien taper. C'est a fait aussi partie et de l'avantage et de l'inconvénient d'être américain, c'est qu'évidemment c'est la patrie ou de la liberté et donc effectivement on a le droit de tout dire, de tout faire, même si même la société WASP est un peu contre ses avis, et surtout que quand on est anti-américain et anti-patriote forcément. Il y avait aussi le film Les Sentiers de la Gloire. de Stanley, hein, quand Stanley avait fait une belle critique de
avec Kirk Douglas,
donc le film en blanc et noir, sur le ces fameux procès arbitraires que le gouvernement français, et je pense que même il y avait aussi des Allemands, hein, qui avaient fait ça, puisque évidemment en 1917 les soldats s'étaient révoltés contre ces massacres organisés à Verdun et tout, sous l'égide de colonels, de généraux qui ne touchaient plus le terrain et qui préféraient, sur des grands tableaux, pousser des hommes à gravir sur une colline, à se faire descendre. Et il la perdait, et ensuite il fallait la récupérer, et tant pis s'il y a des milliers d'hommes qui mouraient, quoi. Donc évidemment, là, à ce moment-là, on avait entendu des procès contre des soldats tirés au sort, hein, qui s'étaient fait fusiller, juste pour l'exemple, pour calmer et mater la rébellion qui était en train de s'installer. Non, mais ce film avait quand même été interdit de nombreuses fois, hein. Moi, je me sais qu'on avait été le voir au lycée à l'époque, enfin à l'époque, pas quand c'est sorti, hein, de notre temps.
Tu te porterais bien.
Oui, c'est vrai. Non, mais il n'a pas été non plus tourné en 17, hein. Il a été tourné à l'époque de Stanley, oui, quand même. Mais c'est vrai que moi je trouvais ça excellent, et c'est vrai que ça avait quand même forcé la politique, mais polémique, pardon. Mais c'est vrai que c'est ce genre de film qui justement fait avancer les choses. C'est que ça avait été aussi le cas d'Indigène. Puisqu'on on avait quand même posé ce cas-là de ces soldats issus de nos colonies qui étaient venus nous défendre sur notre territoire face aux nazis. Et c'est vrai que grâce à ça, on s'était souvenu que oui, ils avaient droit à des pensions, que ça n'avait pas été reversé, et que grâce à ce film, on avait un petit peu éclairé tous ces oublis.
Comme les tirailleurs sénégalais.
Oui, mais voilà, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est là aussi l'avantage du cinéma, c'est qu'on porte en image des vies et qu'effectivement, qu'on a tendance à un petit peu à oublier une fois que l'action est terminée. Il y avait aussi Orange Mécanique, puisqu'on reste dans Stanley Kubrick, hein, puisqu'à l'époque, la presse britannique avait dénoncé que ça allait faire une vague de violence sans précédent. Et donc,
plus la violence, celui-là, que de la politique.
Oui, mais non, mais je suis d'accord. Oui, non, mais bien sûr, mon petit cher. Mais bon, voilà, on va se décaler vers la violence. Et c'est vrai que Stanley avait décidé de retirer le film. Par contre, il n'y avait pas eu de soucis en France. Le film était, enfin, entre guillemets, bien passé. Et il a été rediffusé en Grande-Bretagne qu'à partir de 2000, c'est-à-dire à la suite du décès de Stanley Kubrick. Et ce qui me fait marrer en voyant Orange Mécanique, c'est que quand même, quand tu vois Orange Mécanique et que tu vois les sauts, moi je me dis que c'est gentil à côté, hein. Je sais que le film est explicitement sur la violence en tant que critique, mais il y a aussi, c'est aussi tueur-né, hein, puisqu'il y avait quand même aussi cette fascination de la violence en tant que telle, hein, puisque c'est l'histoire d'un reporter qui va faire un reportage sur deux tueurs en série qui se libèrent, qui le prennent en otage et qui vont tuer tout plein de gens. Et que voilà, et qui sont poursuivis par le monde adulé. Donc c'est vrai que là aussi d'Oliver Stone. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là où la violence aussi en tant que telle, c'est vrai que ça pose un peu des problèmes puisque évidemment. Alors là, par contre, moi je serais plus critique parce que effectivement tout ce qui est politique, ça peut aussi amener à des réflexions sur le gouvernement. Par contre, moi où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a souvent des réalisateurs qui utilisent la violence en tant que telle parce qu'ils savent que c'est vendeur. Il n'y a pas une critique vraiment derrière, puisqu'on a tous ces films quand même dont on a parlé déjà la semaine dernière, les Fast and Furious, les Die Hard, où il y a quand même beaucoup d'action, beaucoup de violence, et qu'on sait que ça va plaire à une certaine frange du public, quoi, ouais, notamment masculin.
On s'en sert aussi, c'est facile aussi d'accuser après, hein, puisque tu parles de tueur né. Il a été ainsi impliqué dans de nombreuses affaires de meurtre aux States. Hein.
Oui.
Donc certains criminels, donc évoquant le film comme inspiration de leur crime, après, bon, il est facile, hein, ou des jeux vidéo, etc. etc. Mais c'était aussi un scénario de Mister Quentin
Tarantino. Oui, oui, oui. Et puis, moi, ça me fait penser à Irréversible aussi. Que,
Mrs. Cassel et Mrs. Belushi.
Mais Mrs. Belushi, oui. Parce qu'il y a. Alors, le film, et surtout, parce que, bon, il est fait d'une telle manière où c'est hanté chronologique, c'est-à-dire qu'on va finir avec le début du film. Puisque c'est la c'est vrai que la scène du viol qui dure quand même 9 minutes a été souvent décriée et
de
que
l'extincteur.
Ouais ouais. Non, du viol. Viol. Et c'est là où c'est vrai que cette partie-là du film a souvent été grillée, qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la salle de cinéma parce qu'ils ne supportaient pas cette violence, parce que on peut comme dans les Disney juste dire bon ben voilà, il y a une scène de sang sur le mur, on sait que le type est mort, et là vraiment on représente
toujours
cette violence.
Disney, quoi, qu'est-ce que ça vient faire là?
Mais non, mais parce que Disney, c'est-à-dire que ils sont limite, il y a ce côté-là où enfin, c'est pas qu'ils adorent la violence, mais c'est-à-dire qu'ils, comme dans les Jurassic Park, je veux dire, c'est des mecs qui se font dévorer par des dinosaures, mais on va pas le montrer avec des tripes à l'air comme on le verrait dans les histoires de morts vivants.
Ce n'est
donc
pas un film d'horreur.
Mais c'est pas un film d'horreur, mais il y a, je veux dire, il y a des mecs qui se font bouffer, c'est quand même violent, tu m'excuseras. Donc là,
c'est
on va juste.
Science-fiction familiale, je sais pas.
Oui,
Park.
Non, mais justement, le truc de Disney, c'est
de
montrer.
De la mer.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais voilà, on montre la violence, mais on va pas non plus en faire une apologie.
On appelle
voilà.
Ça suggéré.
Et d'autant plus que pour en revenir justement à Irréversible, il y a d'autant plus que évidemment on sait que le véritable coupable, lui, il ne sera pas inquiété, que c'est le seul type du film qui s'en sortira indemne. Quoi, c'est ça aussi qui est assez dérangeant.
C'est le quotidien. Hein.
Oui, mais voilà. Oui, non, mais moi c'est ça où je trouve que c'est assez curieux ce rapport de la violence avec le public, parce que ils acceptent de voir des films d'action parce que je dis ah ça monte les Fast and Furious et tout. Je veux dire, il y a des voitures qui dérapent, les James Bond pareil, je veux dire, ils font des cascades, et là tu t'étonnes qu'il n'y ait pas un mort hein, pendant les cascades, parce que souvent quand il y a des histoires de voitures sur l'autoroute, je sais pas s'il y a des mecs qui s'en sortent hein, quand même, parce qu'ils se font renverser par des tanks ou des trucs, mais là c'est bizarrement ça, c'est oblitéré.
Oui, c'est
oui, mais
du numérique.
Non mais ça je suis d'accord. Non mais ça,
il y a des cascades.
Je te parle
tout
du
est calculé.
Film. Je te parle du film, je te parle pas des cascades, je te parle du film, c'est-à-dire en tant qu'histoire même. C'est ça le truc. Et que quand on, par exemple, quand on voit des films de Mel Gibson, puisque c'était l'apôtre de la violence à une certaine époque, dans Braveheart, on voit des têtes ou des bras qui sont coupés, de manière quand même pas suggérée, mais vraiment explicite.
C'était l'époque.
Non, mais alors là, par contre, moi, je poserais un bémol, puisque je ne suis pas d'accord. Son film sur le Christ, à un moment, les mecs, il n'a pas 20 litres de sang, hein, Jésus. Hein, donc à un moment, il faut aussi arrêter le mec, tu le frappes, tu dis oui bon c'est bon gars, il a 5 litres 6 litres c'est tout, t'as l'impression qu'il en a des milliers. Alors moi je suis
oui,
d'accord,
c'était sa vision à lui, ça reste
oui,
du
non.
Cinéma, faut pas tout mélanger non plus quoi.
Mais je mélange pas mon petit père, mais
ce n'est pas la réalité.
Quoi, tu veux dire que Jésus n'existe pas? Attention. Non mais je suis d'accord, mais c'est juste qu'à un moment quand ce film est sorti, il y a des gens qui disent non mais c'est super violent, son truc avec les Incas c'est pareil, il fait dans la violence, mais je dirais que d'un autre côté Mel Gibson il fait dans le truc vrai, c'est-à-dire que les gens veulent voir des films de guerre mais ils veulent pas voir du sang, donc c'est antinomique. Et donc moi je trouve qu'effectivement il a fait, bah après par contre oui on peut faire aussi un petit peu trop,
puisque tu es dans le violent, je vais vous parler un peu du, on va se projeter au Brésil en 2008 avec Tropa de Elite.
C'est vrai.
Donc vu par son réalisateur brésilien comme la volonté d'expliquer comment l'État corrompt les policiers et les incite à la violence. Donc Tropa de Elite, que je vous recommande chaudement, il y en a eu un, il y en a eu deux.
Oui, tout à fait.
Et critiqué donc par de nombreux médias qui y voient une célébration de la violence. Donc Variety allant même jusqu'à déclarer qu'il ressemble à un film de recrutement pour des brutes fascistes. Donc des inquiétudes accentuées par les applaudissements du public brésilien aux scènes de torture. Hein. T'as qu'à voir un peu, bon, faut peut-être aussi parler du public brésilien.
Oui, non, mais donc, c'est la violence, la violence des favelas aussi. Oui. Hein. Il y a les brigades de la mort, voilà. C'est pas...
Ils y rentraient plus, hein, il faut le dire aussi.
Oui, aussi, oui.
Donc c'est un long métrage donc, qui reçoit tout de même l'Ours d'Or à Berlin en 2008.
Puisqu'on en parlait de la semaine dernière, c'est Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper qui est sorti en 1973 et qui a été quand même menacé d'être classé X. Donc il y a plusieurs personnalités, notamment Françoise Giroud et notre cher ministre éternel de la Culture, Jacques Lang, quel beau film, qui ont participé aux projections de la commission et donc il pourra sortir puisqu'il avait quand même eu 7 ans de longues négociations avec la censure. Donc il sortira quand même en 81. Il y avait là pour les amateurs de cinéma Z, Cannibal Holocaust, hein, qui est un film d'horreur italo-colombien qui sort en 1981 de Ruggero Deodato. Donc ça se passe dans la forêt amazonienne, donc une équipe de secours qui part à la recherche de quatre reporters disparus. Donc en fait, c'est séparé en deux parties, évidemment, puisque l'équipe va les retrouver, mais hélas, ces gens ont disparu, mais il reste une bobine. Et donc on va savoir ce qui s'est passé un petit peu à la Blair Witch. Hein. Mm. Donc voilà, donc dans le film, il y a du viol, du sadisme, des tortures réalistes, ça a été tellement réaliste que quand même, il y a eu des procès qui ont été intentés parce qu'on croyait que les types étaient morts. Le réalisateur a été obligé de faire une émission pour montrer que les types étaient bien vivants, que les acteurs étaient... Oui, parce qu'il y a une nana qui se fait violer et puis empaler. Par contre, il y a six animaux qui ont été véritablement tués pour la scène, notamment une tortue qui a été décapitée.
Il était interdit dans plus de 60 pays, je
crois. Oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, c'est le film le plus censuré de l'histoire du cinéma. Et je crois qu'il voulait faire un deuxième pour un petit peu faire une sorte de rédemption, mais qui n'a pas eu lieu. Et puis, par contre, il y a eu un Holocauste 2, mais par contre, qui n'a rien à voir avec le premier, parce que là, quand même, il y a des histoires où il a une des nanas, parce que les reporters, faut savoir qu'ils sont pas si gentils que ça. Hein. Oui. Suivant le film, ils ont quand même poussé à violer une nana, ensuite à l'empaler.
Oui, je pense que la tribu n'a fait que se venger.
Oui, après, ils se font que se venger, puisqu'il y a une histoire de guerre de clan, puisqu'ils voulaient raviver cette guerre pour avoir un super partage à faire. Mmh. Donc, la nana se fait violer puis décapiter. Il y en a un qui le filme et tout. Enfin, voilà, c'est hyper, hyper réaliste. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ce genre de film porte à cause de cette séquence, c'est que les gens, à une époque, les effets spéciaux, ils étaient minables. Donc, comme les premiers Romero, je veux dire, tu croyais pas, tu dis, bah, c'est bon, les gars.
Non, mais là, c'est quand même assez réaliste.
Hein. Et là, c'est.
Je l'ai vu, tu l'as vu, toi aussi ?
Non, je l'ai pas vu, non, j'aimerais bien le voir.
Ça a consommé, donc, de préférence, l'estomac vide.
Oui, je pense aussi.
Puisque tu es dans la violence, on va parler de Blue Velvet.
Ah oui, Blue Velvet.
En 1986.
David Lynch.
Voilà. Mm-hmm. Donc, quiconque a vu ce film risque de demeurer marqué par le personnage interprété par Dennis Hopper, hein, un violeur sadomaso, un renifleur d'essence.
Oui.
À l'époque où le litre était pas cher.
Oui, c'est vrai.
Donc, le film donc passe de violence brutale à cris de larmes et rires maniaques. Bref, un film pour toute la famille.
Mais même Sailor et Lula aussi, hein, ça avait choqué. Justement, puisqu'on parlait au début de l'émission, Michael Haneke, qui en 98 fait Funny Games. Donc, l'histoire de deux adolescents qui torturent une famille et qui a été hélas jugée trop réaliste. Donc, en fait, c'est parti d'un malentendu où le public a eu l'impression que Haneke faisait l'apologie de la violence plutôt que de la critique. Hein. Et donc, il fera un remake quelques années plus tard, en 2008, avec Naomi Watts et Tim Roth. Voilà, donc tu vois, hein, des fois on essaie de critiquer la violence et puis finalement ça nous revient dans la tronche.
On appelle ça un boomerang.
Oui, c'est ça, c'est l'effet boomerang.
Alors on va parler maintenant un peu de Cucu.
Cucu, oui, la palinette.
Donc je vais commencer avec un réalisateur qui en a fait. Enfin non, qui en a fait, je veux dire, un sans culotte.
Oui, c'est ça.
Donc Paul Verhoeven.
Oui, Paul Verhoeven.
Donc difficile de passer à côté du célèbre Basic Instinct.
Et oui.
Le film donc présenté encore, comme tu disais tout à l'heure, à Cannes en 92, mm-hmm. a propulsé Sharon Stone en tant que star mondiale. Il a fait des remous aux États-Unis, hein, bien sûr, pays chaste, hein, comme tout le monde le sait.
Voilà.
À cause de sa scène culte dans laquelle Sharon Stone avait chaud aux cuisses, hein, puisqu'elle croise, décroise ses fameuses jambes. Hein. D'ailleurs, je me demande si c'était elle ou une doublure.
Oui, ça aussi, c'est souvent le cas. Oui, aussi
laissant voir ce qu'elle ne porte pas, c'est-à-dire
une culotte.
Astringe. Voilà.
Une gaine.
Sortez, monsieur, c'est pour parler comme ça. Hein. Donc, cette séquence et d'autres scènes dénudées ont d'ailleurs été censurées pour la sortie américaine du film. Hein. Au total, près de 42 secondes. Donc, les fils de Paul Verhoeven, c'est ça, défrayent davantage la chronique à cause de leurs scènes violentes, hein, puisqu'on en parlait un instant. C'est le cas notamment de Starship Troopers. Hein. Le premier, je vous le conseille, puisqu'il est vraiment très 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 bien.
Oui.
Ou de Total Recall, hein, qui sont malgré tout de vives critiques du capitalisme et du militarisme.
Oui, puis il y avait notre cher Dernier Tango à Paris, hein, de Bernardo Bertolucci. Donc évidemment, la fameuse sodomie au beurre, hein, qui a quand même traumatisé...
La Normandie.
Oui. Merci, oui. Charente partout. Enfin, bon. Qui a traumatisé notre chère Maria Schneider. Et donc, ça a été quand même dans plusieurs pays... En Europe, ça a été classé X. En Italie, ça a été purement interdit. Et même Bertolucci a quand même été même déchu de ses droits civiques pendant quelques temps. Donc, c'est vous dire. Hein. Voilà. Donc, et ce qui, paradoxalement, a été quand même l'un des plus beaux rôles de Marlon Brando. En plus, c'est ce qui était curieux, c'est que ce film est sorti en 72. Donc, on était en pleine période de révolution sexuelle. Et pourtant, il a été fort décrié.
Voilà, mais puisqu'on est en 1972, comment ne pas parler de gorge profonde,
ah oui.
In English Deep Throat, donc qui est sorti en 72 aux États-Unis. Gorge profonde a déclenché une véritable polémique alors qu'à l'origine il devait circuler sous le manteau, si vous me permettez l'expression.
C'est qu'elle le dit, oui.
Donc tourné en 6 jours à Miami par Gérard Damian, non Damiano.
Oui, oui, parce que Gérard Darmon, je pense. Oui. Pas, non.
Avec un budget donc de 25 000 $, le FBI. Carrément lui, estime qu'il a rapporté en 30 ans d'exploitation près de 600 millions de dollars.
Oui, tout à fait, oui.
Il a également propulsé l'actrice donc Linda Lovelace sous les feux des projecteurs. Elle y incarne donc une jeune femme possédant un clitoris situé au fond de la gorge, qui n'a jamais rêvé ça, hein, quoi.
DSK en tout cas, oui, sûrement. Oui,
et ne pouvant donc atteindre l'extase qu'en avalant totalement un sexe masculin.
D'où gorge profonde.
Oui, merci, je reprends mon...
Ton souffle.
Le film a alors bousculé, finalement.
Oui, c'est oui.
Alors bousculé des tabous sur les pratiques sexuelles et a lancé la vague du porno chic. Les journalistes du Washington Post, pour ne citer qu'eux, ont par ailleurs surnommé gorge profonde leur informateur dans l'affaire qui allait donc devenir le Watergate.
Oui, qui allait faire tomber Nixon. Et c'est vrai que, par contre, à sa sortie, il y a eu pas mal d'associations ultra-féministes et conservatrices qui se sont soulevées contre ce film. Et l'acteur Harry Reims a été quand même condamné par la justice, puis relaxé pour avoir joué dans ce film. Et il faut savoir aussi que notre chère Linda Lovelace, depuis, ne cesse de s'évertuer à faire interdire ce film.
Qui est... Ah bon ?
Bah, c'est-à-dire que d'un côté, ça lui a fait sa renommée, mais depuis, elle est restée à ce rôle. Et je pense que oui, effectivement, dans la vie de tous les jours, ça ne doit pas être facile à avaler.
Donc, je vais parler maintenant du film Romance X hein, de Catherine Breillat, romancière X, d'ailleurs, elle est romancière d'origine. Elle connut une carrière d'actrice anecdotique.
Oui.
Elle passe derrière la caméra en 1979 pour Une vraie jeune fille, adaptation de son premier roman. Le film contient donc des scènes pornographiques, mais cherche à montrer le dégoût de soi. Elle se fait connaître du grand public avec Romance en 1999. Le film contient des scènes de sexe non simulées. Caroline donc Ducey et Sagamore Stevenin tournent une scène de fellation et Rocco Siffredi... Et Rocco Siffredi pénètre cette dernière, même si la véracité de cet acte a été discutée par les acteurs eux-mêmes.
Ouais, ouais. Bah oui, et puis il y avait aussi le fameux film Baise-moi. Hein. Donc voilà, donc avec des scènes de
2000, ça, non ?
Ouais, ouais. Avec des scènes de violence et sexuelles. Donc l'association Promouvoir de Bruno Maigret, hein, ainsi que. Beaucoup de parents ont quand même fait pression pour qu'il soit classé X. Par contre, les gens du métier, je veux dire, en tant qu'acteur...
C'était des actrices qui sortaient, stars du porno.
Ouais, non, mais c'est-à-dire que ce genre de films font polémique parce qu'effectivement...
C'est un Thelma et Louise un peu osé-osé.
Oui, mais c'est-à-dire...
Olé-olé.
Oui, voilà, c'est ça, olé-olé. Mais c'est-à-dire que ça met en exergue, c'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouve dans ce cadre très délicat à se dire, est-ce que moi je fais un film, évidemment, sur ces deux femmes avec leur truc sexuel, mais aussi à le mettre de façon explicite au cinéma, ou alors c'est juste un truc hyper racoleur parce que c'est dans l'air du temps et que évidemment personne ne l'a fait. En plus, c'est une femme qui réalise, donc il y a ce côté effectivement, puisque c'est quand même le pornographie est quand même un univers masculin. Donc, est-ce que je me permets ? Il y a non, beaucoup de gens du milieu qui ont poussé ce film, je veux dire, pour pas qu'il tombe dans le domaine du X, et le ministère de la Culture a tranché entre les deux et il a interdit au moins 18 ans. Donc, il n'est pas tombé dans le domaine du X, puisque après ça. Beaucoup de ponts.
Mais la pornographie n'est pas la tête de pont du film, quand même, puisque ça commence par un viol.
Oui, non, mais je sais.
L'autre
oui,
actrice, mais... c'est parce qu'elle s'est fait larder par son copain. Enfin bon,
non, mais
c'est
ça, je suis d'accord. Oui, non, mais
c'est quand même assez la violence qui est montrée.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Il y a la violence, mais le problème, c'est qu'il faut aussi penser de l'autre côté, de l'autre bord. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les conservateurs, tous les puritains te diront que, évidemment, la pornographie, la violence, c'est interdit. on doit rappeler évidemment le fameux coup de notre chère Ségolène qui s'est présentée contre Dorothée et qui lui a fait fermer boutique parce qu'elle jugeait que les mangas étaient trop violents. Voilà, c'est juste que évidemment des gens se sont lancés dans cette croisade parce qu'en même temps ça leur fait leur propre renommée et qu'ils ont carrément un combat gagné d'avance.
Oui, donc puisqu'on l'a cité tout à l'heure, donc son avant-dernier film, me semble-t-il, en date donc a beaucoup fait parler de lui avant même sa sortie en salle. C'est Antichrist, donc de Lars von Trier. On avait déjà parlé.
Oui, tout à fait.
Donc présenté en compétition, notamment au Festival des Cannes. Donc ce long métrage a choqué par les images associant violence et sexe dans des scènes presque insoutenables. Je dois dire que oui, c'était assez hard à
regarder.
Oui, c'est
assez hard. Oui. Mais
plus que Baise-moi, je trouve, qui est moins choquant en soi.
Oui, mais parce que Baise-moi, à la rigueur, moi je dirais qu'on est dans...
Il y a des scènes de mutilation et tout ça.
Oui,
aussi,
mais je pense que le truc, c'est ça fait plus clip. C'est-à-dire qu'effectivement, on part un peu sexe, drogue et rock'n'roll. Mmh. C'est un peu... Là, c'est vraiment psychologique. Hein. Donc là, on est dans un autre. Il y avait aussi, mais ça, on en avait déjà parlé à une certaine époque, c'est évidemment l'Empire des Sens.
Oui.
Avec des vrais acteurs pornographiques de Nagisa Oshima en 76, hein, donc là aussi de façon assez explicite, c'est vrai que ça avait quand même fait scandale, mais là on se retrouve évidemment dans le même cas de romance ou de Baise-moi, c'est évidemment on se retrouve avec des acteurs aussi X qui font que effectivement ça donne aussi une autre résonance au film. Donc voilà. Bon, ça, on en avait déjà parlé, donc on ne s'étendra pas dessus.
Moi, j'ai parlé en 2008 de Martyr, hein, qui est au cœur d'une controverse sur l'interdiction, comme tu disais tout à l'heure, en salle, au moins de 18 ans, qui planait sur le film. Martyr, de Pascal Laugier, a en effet créé la polémique par sa violence poussée à l'extrême. Finalement, seulement interdit au moins de 16 ans. Le long métrage n'en reste pas moins donc éprouvant, parce que des scènes de torture qui feraient presque passer le coup de l'instincteur d'irréversible pour un dessin animé de chez Disney.
Oui.
Je continue aussi avec le dernier, également lancé la polémique avec Viridiana, enfin c'est un vieux
oui,
film.
Oui, de Buñuel, oui.
Oui, qui a abordé donc le fétichisme sexuel et l'inceste.
Mmh. L'inceste ?
Non, sans les grillons. L'hypocrisie de l'Église, la bêtise et la suffisance de la bourgeoisie, la bestialité populaire, donc la scène où le Christ et ses apôtres sont remplacés par des mendiants, reste un monument de provocation.
Oui, il faut savoir que le film a été interdit par l'Église, hein, et qu'en Espagne, il a été interdit jusqu'en 1975. C'était la mort de Franco et qu'il avait reçu la Palme d'Or à Cannes. Il y avait aussi Salo de Pier Paolo Pasolini, hein, donc évidemment. Disons que ce film-là, il n'y aurait pas eu de scandale si le maître n'avait pas livré dans son œuvre une métaphore horrible du fascisme. Donc évidemment, c'est cette petite république qui est restée post-mussolinienne, donc voilà, avec toutes les scènes de torture, de scatologie. Et donc Pasolini est assassiné le 2 novembre 1975, à quelques jours après la sortie de son film. La police a conclu à son assassinat par un amant éconduit, mais les proches y voient plutôt un crime politique.
Parce qu'il y en a qui ne savent pas faire la différence.
Oui, mais justement, parce qu'en parlant d'irréversible, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un violeur en série qui avait vu le film plusieurs fois et qui a quand même violé une douzaine de femmes suite à la sortie de ce film, quoi. Donc il avait pris... Mais bon, après, on se retrouve évidemment dans le cadre où, forcément, on fait des films de guerre, on fait des films. Forcément, il y a des gens qui prendront ça pour la réalité, mais on ne va pas non plus se fermer les œillères parce qu'il y a quelques imbéciles.
Ou quelques dérangés mentaux.
Puisque tu parlais aussi de Buñuel, il y avait aussi Le Chien Andalou, qui est un petit film qui dure 16 minutes. Hein, qui est un court-métrage dont le scénario est de Buñuel et de Dali. Donc il y a plusieurs séquences. C'est l'histoire aussi d'une violence entre l'homme et la femme, le désir de l'homme et la femme qui se défend. Et il y avait aussi beaucoup de violence, puisqu'il y a ce fameux coup où il lui coupe un œil, la lame du couteau passe sur l'œil. Et c'est aussi la fameuse image du nuage qui passe sur la lune.
Oui, mais aussi un film français que je crois qui s'appelle comme la lettre Q d'ailleurs, tout simplement. Et dedans, bon, c'est une histoire d'amour, etc., un road movie. Et y a des scènes aussi de, comme on disait tout à l'heure, de un peu de porno, mais non simulé. Donc.
Oui, il y avait aussi Théorème. Donc, encore de notre cher ami Pier Paolo Pasolini avec Terence Stamp, donc qui est sorti en 1968, donc dans une famille bourgeoise, donc père industriel, mère frustrée, fils et fille étudiante, servante, arrive annoncé par un messager un étrange visiteur, jeune, beau, aimable, taciturne, qui bouleverse ses vies bien ordonnées. Chacun s'éprend de lui et à sa manière et parvient, grâce à lui, à l'assouvissement de ses désirs sexuels les plus secrets. Après un prologue en style de reportage où sont interrogés les ouvriers de l'usine, le film se poursuit en noir et blanc jusqu'à l'arrivée du visiteur. La couleur semble alors signifier que commence la vraie vie ou que du moins chacun des membres de la famille a la révélation de sa vérité profonde et refoulée.
Maintenant, je trouve un peu... abusé, dirons-nous même largement usité, les scènes de cucu, voire de sensualité exacerbée.
Oui, non, mais ça,
de trop.
Ça, on en avait déjà parlé pour l'histoire des érotismes. C'est vrai que c'est toujours là où la nana, on la voit sortir de lui nue. Donc tu dis, waouh, ouais, super, l'actrice, on va la voir Megan Fox, on va la voir nue, ou Sophie Marceau, on va la voir nue.
Ou les assez doux dans Les Adieux à la Reine.
Oui, mais pareil, voilà, c'est ça, c'est juste. Doyen, quoi. Après, on se dit, est-ce que c'était vraiment utile dans le scénario que se promène à Walpé? Ça, moi, c'est un peu aussi l'histoire.
Il faut en montrer, mais pas trop. Puis derrière, t'as le producteur qui va dire oui, on la met à poil, ça va vendre.
Oui, mais voilà, c'est ça. Moi, c'est toujours pareil. Mais c'est l'histoire de la violence, c'est pareil. Après, là, on va rentrer un petit peu dans ce qui est religieux, puisqu'évidemment, il y a quand même beaucoup de films. Il y a le film Dogma de Kevin Smith en 99, hein, donc l'histoire de deux anges déchus, Loki et Bartleby. Donc Matt Damon et Ben Affleck, qui sont bloqués sur Terre et qui souhaitent retourner, évidemment, au paradis. Là, ils trouvent une faille dans le système qui les aidera à retourner, et puisqu'on va les laver de leurs péchés et donc ils pourront de nouveau entrer au paradis. Évidemment, Dieu a disparu. Son adjoint, le Métatron, qui jouait par Alan Rickman, charge une femme, Bethany, qui jouait là par Linda Fiorentino, à justement à leur faire renoncer à ce projet. Elle est rejointe par deux prophètes, donc les obsédés sexuels Jay et Bob, Silent Bob, hein, qui dit deux mots dans le film, et deux êtres venus du ciel les aident. Il y a Rufus, le 13e apôtre, et qui est joué par Chris Rock, et aussi Sérène Dépité, qui est une ancienne muse, qui est devenue stripteaseuse, qui est jouée là par Salma Hayek. Et de son côté, Azrael, qui est joué par Jensen Lee, aide les anges déchus à évidemment réussir leur projet, puisqu'évidemment, ça sera évidemment détruire le projet de Dieu. Voilà. Et Dieu est joué par Alanis Morissette, la chanteuse. Donc évidemment, il y avait eu beaucoup de polémiques sur ce film. Bon. Il reste quand même un peu joyeux, mais bon, après ça reste, voilà, moi je trouve que c'est pas un super grand film non plus, hein. On est loin des grands réalisateurs.
Moi je vais vous parler d'une comédie joyeuse, d'amour et d'eau fraîche, La vie de Brian, 1979, par nos Monty Python.
Et oui, tout à fait.
Donc une comédie basée sur la vie de Jésus-Christ, comment peut-on se trompé, bien sûr. Évidemment, donc Brian n'était pas exactement le messie attendu. Le film des Monty Python donc, a réussi le pari d'offenser à peu près tous les groupes chrétiens de la planète et s'est vu interdit donc d'y diffusion dans plusieurs pays. Donc, qui peut oublier Michael Palin en Ponce Pilate, hein, chantant à Brian sur la croix, il faut toujours voir le bon côté de la vie. Donc, donc Sous le soleil de Satan en 1987, donc le film de Maurice Pialat a été rendu célèbre par la plus grande huée jamais connue à Cannes, encore et toujours. Lors de la remise de la Palme d'Or en 1987, le réalisateur est venu chercher sa récompense sous les sifflets
<C'est> bien, <ouais. rire>
des journalistes. Donc excédé, il a eu ce bon mot. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus.
Tout à fait, moi je m'en rappelle. Il y avait aussi La dernière tentation du Christ, hein. Donc évidemment...
De 2001.
Oui, avec William Dafoe. Donc évidemment, Dieu veut que Jésus soit sacrifié, mais il est aidé par un ange qui lui dit « Bah non gars, tu n'es pas l'élu, tu peux vivre ». Non, tu n'es pas l'élu, Lulu. Tu peux vivre ta vie d'homme. Évidemment, il va se marier avec Marie-Madeleine, hein, et vieillir. Mais Judas arrive et confie, alors que la ville de Jérusalem est à feu et à sang à cause des Romains, que en fait l'ange n'était autre que Satan, et donc on verra à la fin que évidemment ce côté-là où évidemment Jésus sera sacrifié et qu'il sourira.
C'était une Martin Scorsese.
Oui, 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 tout à fait. Il y a quand même eu un attentat de l'espace Saint-Michel à Paris dans la nuit du 22 au 23 octobre 98. Il y a eu 13 blessés et c'était les membres de l'association Agriff, hein, donc un groupe affilié à l'église évidemment de Saint-Nicolas du Chardonnay, évidemment, les conservateurs. Donc c'est l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne, donc l'acronyme fait AGRIF. Donc voilà.
Je crois qu'il y avait eu un mort, il me semble, c'était dans un cinéma à Besançon aussi, par le groupe.
Oui, oui, non, mais ça, bah, c'est-à-dire qu'après, on attaque quand même les purs et durs. Donc là, évidemment, tout ce qui est attaque à la religion ou alors, évidemment, complainte, ça ne marche pas du tout. Et il y avait, ben, on en avait déjà parlé un petit peu de la religieuse aussi, hein, le film de Jacques Rivette.
Oui.
Donc, l'histoire d'une jeune femme qui est enfermée contre son gré dans un couvent et qui se révolte contre sa situation. Et il a été interdit par la censure, puisque même, je crois qu'il y avait, ça s'appelle Les Religieuses de France, c'était insurgé, mais même déjà à l'époque du tournage. Et donc, évidemment, encore plus tellement, ça fait tellement de polémiques que les passions ont été exacerbées. Donc, le gouvernement a un petit peu calmé les choses et que le film n'est sorti qu'en 1967. Voilà, et que d'ailleurs, il y a eu un remake dernièrement. Donc, voilà. Et qui, par contre, bizarrement, a moins souffert. Donc, je pense qu'il y a aussi...
Avec Sandrine Bonner, non ?
Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi c'est l'histoire aussi d'une époque. Parce que souvent, les films de scandale des années passées se paraîtraient légèrement désuets à notre époque.
Oui.
Notamment, bah, je veux dire, moi... C'est-à-dire que quand tu as des références comme Orange Mécanique, je veux dire, par rapport aux films d'horreur actuels ou des films comme Cannibal Holocaust, je veux dire, c'est gentillé à côté, hein. Donc voilà. Il y avait aussi notre bon, ça reste pas vraiment dans la religion, quoique, mais il y a quand même eu des ligues qui se sont.
Mais la Passion du Christ aussi.
Il y a la Passion. Oui, tout à fait. Oui,
pas
oui.
La Passion, hein.
Oui, oui, la Passion du Christ aussi. Et aussi le Da Vinci Code aussi, hein.
Oui.
Puisque,
Bah, le Amen aussi.
Oui, bah, de Ron Howard en 2006, puisque évidemment, je veux dire, l'histoire de base quand même, c'est de dire que évidemment, Marie et Madeleine et Jésus, eh ben, ils ont eu un bébé et que voilà, et qu'il y a une toute une lignée de ça. Donc évidemment, ça allait contre les écrits de l'Église. Donc évidemment, il y a eu quand même pas mal de gens qui se sont insurgés. Mais ça a été quand même plus gentil que vis-à-vis de la dernière Tentation du Christ et surtout la Passion du Christ de Mel Gibson. Il y avait aussi le film. Alors là, on sort un petit peu du cadre,
Mais faites, monsieur, faites.
Mais voilà, c'est ça. Larry Flint aussi, de Milos Forman, oui. Hein, oui. En 1996.
C'était le problème d'affiche, non ?
Oui, il y avait eu cette fameuse histoire d'une affiche, puisque évidemment le héros est nu, et avec le bas-ventre qui est caché derrière le drapeau américain, et en position de crucifix sur un corps féminin. Donc là, ça avait été. Milos Forman, par contre, avait retiré l'affiche, évidemment.
Oui, parce qu'elle était vachement plus sombre, il me semble.
Oui, 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 oui. Bah, évidemment.
C'était sur le célèbre
pornographe. Oui, pas vraiment pornographe. Disons que lui, au début,
il a amené la pornographie.
Bah, c'est-à-dire qu'il avait son magazine, le Hustler, qui est évidemment une version un peu plus graveleuse que le Playboy. Mais il faut savoir que dans le fameux biopic Clo-Clo, on apprend que notre cher Clo-Clo faisait aussi des photos de charme. Bon, pas Hustler, hein, mais c'était plus dans Playboy quand même.
Il en a fait dans Playboy ?
Non, il en a pas fait. Non, mais il avait son magazine de charme, hein, Clo-Clo.
Ah, okay.
Oui, parce qu'il était photographe. Enfin bon, je pense que c'est... Ça servait surtout son intérêt libidineux, dirais-je.
La chanson, ça s'en va et ça revient.
Merci, bien. Donc voilà, il y avait Psycho de Michael Moore aussi en 2007, hein, puisque c'est finalement la comparaison du système de santé aux États-Unis par rapport à la Grande-Bretagne, au Canada, à la France et surtout face à part aux Cubains. Donc évidemment, Michael Moore démontre qu'évidemment le système américain est très mauvais. Donc le gouvernement a pris mouche, a décidé de contre-attaquer. Donc évidemment, ils l'ont accusé d'avoir bravé l'embargo qui était instauré à Cuba. Puisqu'évidemment, Michael Moore avait amené des médecins et que tu n'as pas le droit de dépenser des dollars à Cuba. Donc voilà.
Oui, donc, mais il avait déjà défrayé la chronique avec Fahrenheit 9/11.
Oui, oui. Et puis là, en plus, il y a ce côté-là où il fait un rapport dans le film où il montre que les secouristes qui ont été, comme ça s'appelle, en septembre, qui ont inhalé des produits, qui ont eu des traumatismes et qui essayent de se soigner, n'y arrivent pas parce qu'ils ont des problèmes financiers par rapport aux prisonniers de Guantanamo qui sont bien surveillés et qui sont, eux, considérés comme terroristes par le gouvernement américain. Donc, il y a quand même une belle ironie là-dedans. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on on a fait quand même quelques exceptions puisqu'on arrivait quand même un petit peu à la fin de l'émission. Donc c'est vrai que moi je dirais que les films de scandale font quand même avancer pas mal, je vais dire, les mœurs d'une société, puisqu'évidemment, des films comme Indigène, ou même, je dirais, dans la moindre mesure, la dernière Tentation du Christ, ou Le Dernier Tango à Paris, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, on a aussi une société qui évolue, ce qui fait qu'effectivement, des films qui, il y a quelques années, poussaient carrément à tuer des, comment ça s'appelle, des réalisateurs, ou à brûler des affiches, à poser des bombes, paraîtraient qu'à un moment anodin, voire même un peu rétrograde.
Je suis pas sûr quand même, il y a toujours des groupes
non mais il y en a toujours. Non mais je
puritain.
Sais, les Saint-Nicolas du Chardonnay, ils vont pas désarmer, je dis pas, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi la critique de la société, c'est-à-dire que eux ils vont rester évidemment dans leur combat, que ce soit les fascistes, que ce soit les religieux de tous bords, vont laisser, mais c'est-à-dire que le public par contre va se désengager de ce combat-là. Ils vont dire non mais c'est bon, on n'est plus au Moyen Âge et tout. À une époque, je veux dire à l'époque de nos pères, de nos grands-pères, quand des films sortaient, puisqu'il y a eu tous les films de scandale, puisque je veux dire quand Hollywood est sorti au grand jour, dans les films, il y a aussi des films de un peu pornographiques, hein, dans les années 20. C'était un seul couvert, mais tout le monde le savait. Donc voilà, il y a ce côté-là où effectivement, il y a des bonnes mœurs, c'est-à-dire qu'on va garder la société.
Bonnes mœurs, il y a des mauvaises mœurs. C'est comme les chasseurs.
Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais oui, mais voilà. Et je pense que ce qu'il faut aussi faire, puisque c'est un petit peu, moi je trouve, et tout à fait normal, c'est un peu le devoir du cinéma, pas pour tous les réalisateurs, puisqu'il faut qu'il y ait quand même un peu de fiction, un peu d'histoire, mais c'est-à-dire que c'est aussi un engagement du cinéma, c'est aussi de faire réfléchir à certains événements, à faire aussi avancer les mœurs, puisqu'évidemment, puisqu'on a peu parlé évidemment des catholiques, mais aussi d'autres religions, hein, aussi, puisqu'il y a des films israéliens, hein, notamment sur le gouvernement et aussi sur la religion, qui ont poussé. Donc voilà, moi je trouve qu'il est tout à fait normal, et c'est même le devoir d'un art, que ce soit la peinture, le théâtre ou autre, de faire avancer la société.
D'où la polémique des deux réalisateurs, là, Spielberg et
Cameron.
Oui, sur le devenir du cinéma. Hein. Ils nous ont alertés là-dessus, puisque bientôt beaucoup de films n'auront plus leur place au cinéma, notamment Lincoln, puisque quand même c'est Lincoln, hein, ce n'est pas un petit film, puisqu'il n'a pas fait, il n'a failli ne pas sortir en salle, mais bientôt on aura ce genre de film qu'en réseau câblé ou sur des chaînes télé, et que les gros blockbusters n'auront donc leur place qu'au cinéma. D'où le prix des places qui passerait donc, nous disait, à 50, 100 ou 150 dollars, comme une place de football ou comme un grand spectacle.
Par contre, c'est là où je me dis que le gouvernement français de M. Hollande est quand même assez fort, justement, c'est-à-dire de défendre l'exception culturelle française. Donc, moi, je trouve ça très, très important. Je pense que tous les pays devraient le faire, même les États-Unis, parce que grâce à des festivals d'Austin et de Sundance, je veux dire, il y a un cinéma annexe et qui est, moi, je dirais, même assez salvateur.
Oui, mais non, on se demande dans quelques années le devenir des salles, puisque ça va pousser beaucoup de salles à fermer.
Oui,
si tu
augmentes
trop le prix, et donc on aura droit à des salles beaucoup plus grandes, mais
oui, mais
ça va être
le règne du multiplex, évidemment. Oui. Oui. Mais je dirais que c'est un peu délicat, puisque évidemment on va se retrouver un petit peu comme dans l'univers musical, c'est-à-dire qu'effectivement, si t'as pas réussi à vendre tant de places à telle date, je trouve ça minable, parce que effectivement il y a des grands films, je veux dire des blockbusters,
avec beaucoup de moyens, qui coûtent très très cher. On l'a vu avec Avatar.
Oui, mais voilà, c'est ça. Non, mais ils sont faits aussi, je veux dire, c'est là aussi le plaisir du cinéma. C'est un moment de loisir. C'est comme un bon bouquin. On aime bien aussi lire. Mais il y a des livres, il y a des pièces de théâtre, il y a des peintures qui font réfléchir. C'est pas normal qu'on n'ait pas le droit à ça. Et je pense qu'on peut même s'appuyer sur des articles de loi, puisque ça veut dire qu'il y a des restrictions à toucher le milieu culturel et que ça, on n'y a pas le droit d'y toucher. Mais c'est vrai que évidemment l'époque où le pognon est roi, évidemment la culture, hélas, n'a plus son mot à dire.
Merci Monsieur Gouin pour cette conclusion.
Donc évidemment, puisque justement on parle des multiplex, notre cher Pestel est en vacances, donc nous allons parler de quelques sorties. Donc je te laisse tirer le premier, Monsieur Langlais.
Merci, je vais pas te louper. Donc je l'avais évoqué lors des films de zombies, donc il est sorti, ça s'appelle The Bay, de Barry Levinson, donc avec Kirsten Connolly, Andy Stahl et Anthony Reynolds et autres consorts. Donc dans la baie du Maryland, une bactérie non identifiée contamine le lac et ceux qui s'en approchent. Donc c'est le film d'épouvante de l'été, ne le loupez pas, pour dénoncer l'inertie des pouvoirs publics. Donc la grande force de The Bay, c'est aussi d'épouser lui-même la forme d'une contagion par les images, hein. Écran de surveillance, smartphone, webcam, etc., etc. Puisque maintenant, vous savez, tout est filmé, on nous suit de partout, on sait tout à l'instant X.
Et oui. Moi, j'avais le loup de Wall Street, le prochain Martin Scorsese avec notre cher Leonardo DiCaprio et Matthew McConaughey. Et oui, encore lui.
Il sort quand, ce film ?
Il sort logiquement cette semaine. Donc, c'est l'histoire vraie de Jordan Belfort, qui était courtier à Wall Street, évidemment, et qui passa 20 mois en prison pour avoir refusé de participer à une gigantesque arnaque. Et évidemment, là, c'est ce fameux monde de la bourse. On gagne des sous, on gagne des sous, on gagne des sous, jusqu'à ce qu'on soit carrément coupé du monde, à jeter des billets, à faire des lancers de nains. Donc voilà. Donc je pense qu'évidemment, et puis évidemment, l'hommage de Martin à encore sa ville, New York, hein, puisque New York. Wall Street.
Yes. Bon, bah, puisque tu parles aussi du monde de la finance, il y avait un très 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 bon film qui était sorti, qui s'appelle Margin Call.
D'accord.
Qui est passé au pastel.
Et moi j'ai Killing Season de Mark Steven Johnson. Donc pour faire le synopsis au cours, c'est deux anciens du Vietnam qui se pourchassent. Voilà, qui se chasse l'un l'autre.
Chase, voilà.
Donc, évidemment, c'est Robert De Niro versus John Travolta. Donc, évidemment.
J'ai déjà vu ça.
Bah, c'est-à-dire que, évidemment, c'est notre cher De Niro en père de famille tranquille qui part à la chasse.
Encore,
et d'un coup.
Et
d'un coup.
Et tout ça.
Oui, en version un peu plus hard. Puisqu'évidemment, là, il va prendre en autostop un type qui n'est autre. Évidemment que. Il faut voir la coupe de John Travolta. J'ai l'impression de voir Robert U, bon, en version un peu plus
hard,
un peu plus sévère du moins, et évidemment, et les deux hommes vont commencer à se tirer l'un l'autre. Donc je pense que voilà, on réunit deux grandes stars, on les fait battre l'un l'autre. Voilà, je pense que c'est notre US par excellence. Il y a aussi The Spectacular Norm de James Ponsold, donc évidemment Sutri, qui est donc le mec le plus cool du lycée, par exemple.
Ah, mais c'est un film d'ado.
Oui, voilà. Ah. Donc, qui est plus cool, évidemment, puisqu'il a voiture, boulot et une fiancée, il est hélas très porté sur la boisson. Et un jour, il se couche sur son gazon, et donc, il y a une nana qui se présente, sa chère aimée, et donc, grâce à cette rencontre, il va devoir changer sa vie. Enfin, c'est il va cool. devoir. Du moins, il va changer sa vie, parce qu'évidemment, il va d'abord la connaître, et puis, évidemment, je vous laisse. Donc, il a quand même eu le grand prix du jury à Sundance.
D'accord. Mais puisque tu y es, moi, je vais parler du le congrès d'Harry Fullman avec Robin Wright, Harvey Keitel et Paul Giamatti.
Giamatti, oui.
Donc, c'est un film science-fiction-animation qui sortira le 3 juillet 2013. C'est l'adaptation du roman de Stanislaw Lem, donc qui s'appelle The Futurological Congress. Donc, Robin Wright se voit proposer par la Miramount, hein, d'être scanné. Donc, son alias pourra ainsi être librement exploité dans tous les films que la Mayor compagnie hollywoodienne décidera de tourner, même les plus commerciaux, hein, ce qu'elle avait jusque-là refusé. Donc pendant 20 ans, elle doit disparaître et reviendra comme invitée d'honneur du congrès Miramount Nagasaki dans un monde transformé et aux apparences fantastiques. Donc c'est Harry Fullman qui déploie un récit d'une liberté folle, plonge tête la première dans les méandres de l'histoire des arts auquel il rend hommage. Et dans ce vaisseau fragile mais véloce, l'hôtesse first class Robin Wright, hein, ex-madame Sean Penn.
Oui, donc, et princesse Bride.
Oui, donc c'est ça qui bouleverse donc, du premier au dernier plan, je trouve.
Oui, c'est marrant. D'ailleurs, cette actrice, elle revient bien en ce moment. Hein.
Mais peut-être le film, victime de son ambition, trop de thèmes, trop d'idées, trop de couleurs criardes, enfin bon, de tounerie, de sous-univers alambiqué. Enfin, c'est à voir. Je pensais un peu le genre, tu aimes, tu n'aimes pas. C'est comme The Master.
Voilà, c'est ça, oui. Eh bien, voilà, mon cher Hugo, on se termine.
Dis-moi. On se termine ? Non, non. Je vous en prie, monsieur.
Non, l'émission...
Ne créons pas la polémique.
Tout à fait. Donc l'émission se termine. Donc on va déjà porter
au revoir.
On va porter nos regards vers la semaine
prochaine.
Bonnes
vacances.
Voilà, c'est ça.
Bosser, passer le bac.
Oui, c'est
ça. Ça doit être la saison.
Oui, c'est plutôt le moment que la saison, mais oui, tout à fait. Donc la semaine prochaine, nous parlerons d'un certain réalisateur. D'un certain réalisateur, Nanni Moretti.
D'accord.
Celui qui a fait Abeus Papam. Donc voilà.
Papam.
Voilà, c'est ça. Donc
le frère de Jason.
Très bon. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices. On vous trouvera peut-être sur le bord de la Drôme, mais n'hésitez pas à écouter quand même Erdiwa sur votre petit poste que vous pouvez amener à la Drôme, hein, puisque l'avantage de la radio, c'est qu'on peut l'amener tout. Et puis même, je pense que sur certains de vos portables, vous avez
bien
même
l'application.
Vous avez cette application. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite bonne baignade et à la semaine prochaine.
Enfin, s'il peut, n'y allez pas. Go ahead. Be quiet, Jay.
Sweep from that box. I love the smell of napalm in the morning. Life is like a box of chocolates.